Je me suis permise de rajouter la vision de la rhumatologie pédiatrique lyonnaise parce que je ne savais pas si tout le monde allait être d'accord avec mes propos aujourd'hui. Donc, l'effet sur la fibromyalgie, c'est que c'est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1992, qu'on connaît tous des patients et qui sont nombreux, qu'il y a de nombreuses associations et de nombreux forums, et avec Internet et tous les réseaux sociaux, c'est très florissant. Que la nature et l'existence de la fibromyalgie même font l'objet de controverses au sein du monde médical, bien sûr, et donc je ne sais pas si vous partagerez mon point de vue. Et les critères de la CR, en 1990, donnaient la définition d'une douleur d'au moins 3 jours dans la semaine, qui durait depuis au moins 3 mois, au-dessus ou en dessous de la ceinture et de façon bilatérale. Ces critères ont été revus en 2010, qui prouvent quand même qu'il y a des études qui sont faites et de la recherche récente sur le sujet. Et donc ces nouveaux critères, je vous les ai mis, alors c'est des critères plus pour nous rhumatologues, donc c'est toujours des symptômes douloureux, chroniques, donc au moins depuis 3 mois. Y apparaissent donc un score de douleur généralisée et un score de sévérité des symptômes sur lesquels je reviendrai par la suite. Et il faut bien sûr éliminer toute autre cause de douleur articulaire, ostéo-articulaire. Donc les zones douloureuses, ce petit schéma, je pense que vous l'avez tous vu. Donc avec un total de points douloureux qui seraient cotés jusqu'à 19 et finalement qui sont relativement diffus et non spécifiques. Au niveau de la sévérité des symptômes, c'est pareil, c'est vague, coté de 1 à 3 pour chacun, englobant donc la fatigue, les troubles du sommeil, les troubles cognitifs qui peuvent être associés et les troubles somatiques associés pour un total à 12. Donc ces échelles, quels sont les critères objectifs? Je laisse la question en suspens. C'est peu comparable et c'est très examinateur dépendant, ce qui rend pour moi la définition même de la fibromyalgie un peu périlleuse. Dans la littérature, on trouve d'autres dénominations de la fibromyalgie ou des synonymes. On l'a appelé syndrome polyalgique diffus, fibrosite, fibromyosite. Et chez l'enfant, puisque du coup je suis pédiatre, on parle de syndrome de fibromyalgie juvénile ou de syndrome douloureux étendu chronique. Donc les manifestations qui reprennent donc les critères, les douleurs qui peuvent être musculaires, articulaires, aggravées par de nombreuses choses comme le stress, le froid, l'humidité et l'émotion. La fatigue chronique, mais si la fatigue est prédominante, on passe dans un autre syndrome qui sera appelé syndrome de fatigue chronique. Les troubles du sommeil, des symptômes dépressifs ou anxieux qui seraient 4 fois plus présents que dans la population générale. Des difficultés, voire une incapacité à effectuer des tâches ou des exercices physiques. Pour nous, chez l'enfant, un absentéisme scolaire et d'autres. Je ne vous ai pas énuméré tous les autres symptômes qui peuvent rentrer dans la définition, puisque céphalée, troubles digestifs, enfin tout autre symptôme. Au niveau de l'incidence, on parlerait de 80% des femmes qui... non, pas 80% des femmes qui sont atteintes, mais... 80% des fibromyalgiques seraient des femmes, et ça représenterait 1% de la population féminine. Entre 30 et 50 ans pour 80% d'entre elles, on retrouve un tempérament pessimiste, c'est écrit. Et chez l'enfant, on parle d'une incidence entre 9 et 12 ans. Chez les filles, j'ai pas de chiffres très précis et on parlerait donc de 1% de fibromyalgique chez l'enfant. On parle aussi, et là il y a des études qui ont été faites, que c'est associé chez l'enfant à des antécédents de traumatismes physiques ou d'abus sexuels. Donc certaines étiologies ont été suspectées. Ce que je vous dis, c'est que ça suscite quand même des études, et des études en imagerie. J'ai pas creusé le sujet, puisque c'est pour le coup pas du tout mon domaine. Certains disent que c'est un dysfonctionnement de la région cérébrale responsable du traitement de la douleur. Un défaut d'adaptation au stress. L'explication qui me semble, à laquelle moi j'adhère le plus, ce serait des troubles du sommeil qui entraînent des troubles dépressifs et donc une sensibilité à la douleur différente. On parle d'une susceptibilité familiale et on parle, vaste sujet, d'une origine infectieuse ou des vaccinations qui seraient en cause. Donc on retrouve plein de choses, beaucoup sur le Lyme, vous vous en doutez, mycoplasme, chlamydia, Bordetella pertussis, l'hépatite C, le VIH, alors je sais, enfin, c'est cité, il y a beaucoup de choses dites dessus. Je trouve que c'est étonnant de mélanger le VIH avec la fibromyalgie. Et les vaccinations, vaste sujet pour nous en pédiatrie, puisque maintenant les vaccinations sont responsables d'à peu près toutes les maladies qui existent. Je vous cite juste certaines études que j'ai trouvées qui sont récentes, comme je vous dis, qui prouvent qu'il y a des gens qui se posent beaucoup de questions sur ce sujet. La prise en charge diagnostique, donc notre quotidien, les professionnels qui sont concernés, donc je pense qu'on est tous représentés dans la salle, les rhumatos ou les rhumatopédiatres, les médecins traitants, je pense en premier lieu, les psychiatres et les médecins de la douleur. Ces consultations sont longues et souvent on voit arriver pour nous les enfants, mais c'est équivalent pour les adultes, 3 à 4 professionnels qui ont été consultés auparavant. Ils ont tous eu des examens complémentaires, même si les recommandations c'est qu'il n'y a pas de nécessité d'examen complémentaire pour en faire le diagnostic, et ça nécessite une prise en charge multidisciplinaire. Les diagnostics différentiels, il faut bien y penser, éliminer une hypothyroïdie, arthrose, arthrite d'un point de vue rhumatologique chez nous, chez l'enfant. J'ai mis en gras la spondylarthropathie, les spondylarthropathies, ou vulgairement spondylarthrite ankylosante pour faire plus rapide, parce que c'est un vrai diagnostic différentiel où on a... C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec l'équipe de la douleur, parce que quelquefois on a du mal à faire vraiment notre diagnostic entre spondylarthrite et fibromyalgie, ou comme je vous dirais plus précisément tout à l'heure, moi on ne les appelle pas fibromyalgiques, mais c'est très difficile. Dans les diagnostics différentiels sont cités aussi le lupus, la polymyositis et le gougerot. Franchement, je pense que c'est difficile de se tromper. Donc pour moi, la première consultation est un gage de réussite, puisqu'il faut qu'il y ait une relation de confiance qui s'instaure tout de suite. Les nouvelles recommandations, c'est qu'il faut trouver un traitement adapté à chaque patient en fonction de ses symptômes. Donc là encore, on fait un petit peu ce qu'on veut, c'est pas très précis. Intérêt des traitements non médicamenteux, comme l'activité physique, les psychothérapies et les traitements médicamenteux ciblés sur la douleur et le sommeil. Et je rajoute, aller à l'école, puisque souvent ces enfants sont déscolarisés et la première chose à faire avant de mettre en place un traitement, c'est de le renvoyer à l'école, enfin de faire en sorte qu'il puisse aller à l'école. L'évolution est positive dans 75% des cas après 3 ans. C'est la seule étude en 95 que j'ai pu trouver qui traite le sujet sur l'évolution de ces enfants. Et je rajoute, ça c'est plutôt sur les thèmes de la transition, puisque là il doit y avoir des médecins adultes comme des pédiatres. Finalement, ces enfants, nous en consultation de rhumato, on ne les voit plus à partir d'un moment. Mais 10, 20, 30 ans après, est-ce que... Il présente encore des douleurs, voilà, ça, je n'ai rien trouvé et je pense que ça peut être un travail intéressant. Mais la difficulté, c'est comme on nomme pas tous la maladie de la même façon, ce serait un peu difficile de recruter et de comparer nos études. Donc le constat, c'est que c'est des patients qui ne sont pas entendus, parmi des médecins et praticiens débordés, que c'est des enfants, je rappelle, qui prennent beaucoup de temps. Et que, puisqu'on ne répond pas à leurs besoins, ils partent vers des médecines parallèles, alors qui ne sont pas toujours néfastes, je ne vais pas bannir les autres médecines, mais qui représentent un coût très important pour les familles et des discours qui ne sont pas toujours très honnêtes. Pour la société, arrêt maladie chez l'adulte et reconnaissance de handicap, parce qu'on a quand même des enfants qui nous arrivent avec des dossiers MDPH lourds comme le bras. Les associations, donc là je me suis un peu renseignée parce que je vous avoue que je ne connaissais pas toutes ces associations. Donc Fibromyalgie SOS qui a l'air d'être la plus grosse association avec un site très bien fait, avec en vente plein de choses. L'alimentation d'un fibromyalgie, ça aussi, alors je ne le traite pas du tout, mais c'est quand même aussi un vaste sujet. Et surtout les 100 symptômes de la fibromyalgie. Donc je vous en ai cité juste certains, je pense que oui, vous voyez un petit peu. Mais qui ne sont pas du tout, symptomatiques de quoi que ce soit, puisque tout le monde a la peau sèche, de perdre ses clés et même sa voiture, ça nous arrive à tous. J'ai trouvé que c'était vraiment les symptômes, tout le monde, chaque patient peut se faire le diagnostic de fibromyalgie, tout autant qu'on est dans la salle, on est fibromyalgique. Et puis tout est mélangé puisqu'on rajoute aussi l'endométriose, donc l'endométriose qui serait due à des douleurs, alors que l'endométriose, pour le coup, il y a des examens complémentaires qui peuvent prouver l'endométriose. Donc j'ai tout le site est un petit peu compliqué. Et un autre site qui utilise du coup que des articles médicaux, ou des critères de l'ACR, de l'ELAR, mais qui sont quelquefois interprétés à mauvais escient selon moi. Alors, mythe ou réalité, pour rentrer dans le vif du sujet. Notre vision, c'est qu'il ne faut pas la nommer. Donc, dans aucun de nos dossiers, on note fibromyalgie. Pourquoi ? Puisque finalement, on les rentre dans une maladie et que pour nous, ce n'est pas une maladie. Je vous ai rappelé une petite définition de la maladie, entité particulière caractérisée par des causes, des symptômes et une évolution et des possibilités thérapeutiques propres. Donc finalement, pour moi, ça ne rentre pas dans ce contexte. Et c'est surtout que, comme je vous disais, maintenant, les gens, quand ils ont un diagnostic, ils demandent une prise en charge à 100%, un dossier MDPH, et pour moi, on les enquiste dans cette maladie. Et c'est cette notion de transmission. On a tous... la maman arrive en disant « Mais moi, j'ai la fibromyalgie, donc ma fille, là, c'est quasiment toute. » Et du coup, si on arrête de nommer cette pathologie chez nos enfants à nous, peut-être que leurs filles, à elles, n'auront peut-être pas la fibromyalgie. Donc la réalité, c'est des nombreux patients, c'est les répercussions sociales et scolaires, parce que c'est des enfants qui sont complètement isolés, des consommations médicales, beaucoup. Et pour ce qui nous concerne en rhumatologie pédiatrique, on a des enfants, pour les autres pathologies dont on s'occupe, qui sont inflammatoires, qui nécessitent des mises en place de traitements plus urgents. Donc effectivement, ces enfants-là ne sont pas prioritaires. Ce qui n'est pas du tout bien non plus, puisqu'on les laisse attendre pendant plus que 4 à 6 mois. Ils ont le temps d'aller consulter à droite à gauche et de s'enfoncer encore un petit peu plus dans leur douleur. Pourquoi c'est un mythe ? Bah, je vous ai dit, les définitions et les critères pour moi ne sont pas satisfaisants. Le fait que ça atteigne les filles souvent à une période de préadolescence, cette notion de transmission qui n'est pas claire et tous ces examens complémentaires normaux. Pour la prise en charge pédiatrique, donc là je vous parle un petit peu plus de la pédiatrique, l'organisation PRINTO, qui est une organisation européenne de rhumatologie pédiatrique, cite de façon très vaste la façon dont il faut s'occuper de ces enfants. Grosso modo, il faut les faire bouger parce qu'effectivement, ils ne bougent plus. Et puis, la mise en place de traitements comportementaux cognitifs individuels ou en groupe. Les traitements médicamenteux, comme on en a parlé tout à l'heure. À Lyon, on essaie du coup d'associer les consultations de rhumato, les consultations de la douleur, donc qui associent le médecin de la douleur, l'infirmière responsable de la douleur et la psychologue en charge de la douleur. Quand nous, on voit les enfants, quand ils arrivent chez nous, parce que finalement, quelquefois, ils arrivent directement en consultation de la douleur, quand ils arrivent chez nous, moi, je leur propose le package, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas, j'en prends un et je ne prends pas l'autre. Ils font ce qu'ils veulent, hein, mais on leur explique que c'est vraiment la nécessité d'une prise en charge à trois qui est importante. La kinésithérapie chez l'adulte, dans tous les articles sur la fibromyalgie, si je reprends ce terme, aucun bénéfice n'a été trouvé. Chez l'enfant, je ne suis pas convaincue de l'inefficacité de la kinésithérapie. C'est surtout qu'ils reprennent confiance en eux et en leur mobilisation et qu'on évite d'avoir des complications, parce qu'on a quand même des enfants avec des amyotrophies terribles dans ces contextes d'enfants qui ne bougent plus. Rares hospitalisations, mais on a été quand même amené à hospitaliser nos enfants en centre de rééducation fonctionnelle. Alors pourquoi le centre de rééducation fonctionnelle ? Bah parce que nous, on n'a pas de lit pour ces enfants-là, que le service de la douleur n'a pas de lit non plus, et que les seuls qui aient des lits et qui peuvent proposer, donc ça c'est propre à Lyon, une prise en charge multidisciplinaire en lit d'hospitalisation, c'est les services de rééducation fonctionnelle avec l'école, les psychologues et la prise en charge de la douleur. Donc je me répète un petit peu. Rien de... Si, alors l'idéal, parce que plutôt que le mythe, je voulais parler de l'idéal. ce serait qu'on ait des consultations qui soient dédiées à ces enfants-là, pour qu'ils ne passent pas après les maladies inflammatoires qui sont pressées, et qu'on ait un délai de consultation qui soit plus raisonnable. L'idéal aussi, ce serait qu'on puisse être à plusieurs pour pouvoir discuter de ces patients, où régulièrement on se pose toujours la question « Non mais tu ne crois pas qu'il a un truc organique, on serait passé à côté de quelque chose ?» Donc on se pose quand même pas mal de questions récurrentes chez ces enfants. Donc si on était tous ensemble, plutôt que de faire une consultation avec l'un, puis une consultation avec l'autre, ça pourrait être une idée selon moi. Et des lits d'hospitalisation pour ces enfants, là encore, ils passent après le greffé rénal dans notre service. C'est sûr que la priorité, il n'est pas à cet enfant-là. Mais je pense qu'il faudrait pouvoir avoir ce genre de choses. Alors je pense que ça existe, hein. Enfin, dans la maison des adolescents, on verra cet après-midi. Moi, je ne suis pas très au fait. Mais je pense qu'il y a des choses qui existent. Mais chez nous, à Lyon, ça n'existe pas encore. Alors je ne sais pas, je complète avec des petits cas cliniques, parce qu'on m'avait donné 40 minutes et que je ne savais pas comment occuper mon temps. Julie, qui est née en 2007. Alors, ce premier dossier, c'est pas très lisible, mais c'est pour susciter un petit peu aussi la problématique de ces enfants. Alors, quand on note dans les antécédents, la maman a une dépression, la grand-mère a des arthralgies chroniques non étiquetées, pas de traitement en cours, notamment pas de notion de biothérapie, etc. Donc, les arthralgies, on parle pas de maladie rhumatismale inflammatoire. L'enfant elle-même a présenté de façon assez précoce, puisqu'à l'âge de 4 ans, un épisode dépressif, et on la décrit comme perfectionniste et anxieuse au moment des évaluations scolaires. Donc c'est pour vous situer le terrain. Ensuite, à l'âge de 5 ans, elle commence à avoir des douleurs, et on la voit chez nous que 3 ans après. Alors c'est pas nos délais diagnostiques, les 3 ans, mais c'est parce que du coup, elle est allée à droite à gauche, elle a eu des traitements anti-inflammatoires et diverses choses. Elle présente aussi des flous et des picotements des yeux et une évaluation en milieu hospitalier ophtalmo n'ont rien trouvé. Donc quand on la voit, elle a 9 ans, elle a des blocages, elle a un dérouillage matinal, elle a tout ce qui pourrait nous évoquer une maladie inflammatoire. Elle a une IRM qui est un peu douteuse, on ne sait pas bien. Et par contre, elle n'est pas sensible aux anti-inflammatoires. Donc ça, c'est vrai que pour nous, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Et on doit aller quand même un petit peu au bout, parce qu'on se dit, si on n'y va pas, on le regrettera après. Alors on fait la recherche d'HLA B27, donc cette bonne recherche d'HLA B27. Est-ce qu'il faut la faire, est-ce qu'il ne faut pas la faire? Parce qu'effectivement, là, elle s'avère positive. À la fois, on dit aux gens, bah oui, mais elle est positive, mais moi, je pense que ce n'est quand même pas une spondylarthrite. Donc, toute la difficulté, je pense qu'il n'y a pas de mode méthode et on a tous ces patients-là où on ne sait pas bien ce qu'il faut en faire. Et voilà. Alors après, elle est intolérante aux anti-inflammatoires. Ça, tous, ils deviennent intolérants aux anti-inflammatoires parce que finalement, déjà, ça ne marche pas et en plus, ça leur troue l'estomac. Du coup, le service de la douleur, le TENS, paraît ce qui a été le plus efficace pour la prise en charge de cette douleur. On la voit tous les 3 mois. Et finalement, bah, l'évolution n'est pas très positive, puisqu'elle ne va plus à la cantine pour qu'elle puisse se reposer. Moi, je vous assure que tous nos patients avec arthrite juvénile, ils se battent pour aller à l'école plus que de se mettre en retrait de l'école. Donc ça, c'est aussi un argument pour se dire que ce sont des douleurs qui sont fonctionnelles et qui ne sont pas organiques. Et le nomadisme médical continue. Alors, c'est des gens qui honorent les consultations, mais à chaque fois qu'ils nous disent bah, « je suis allé voir machin, je suis allé voir truc ». Donc, ils sont allés voir docteur... spécialiste de la maladie de Lyme dans la région lyonnaise. Alors sachant que... Est-ce que c'est celle-ci? Oui, celle-ci avait eu un Lyme quand même en 2013, pardon. Deux traitements antibiotiques de longue durée pour une maladie de Lyme. Je n'ai pas récupéré les sérologies, donc je ne sais pas ce qu'il en était. Donc là, le grand spécialiste de la maladie de Lyme dans la région lyonnaise remet un traitement de 6 mois par antibiotique. Comme elle ne le tolère pas bien, elle a des céphalées et des vertiges, et ben on met la... On met mi-dose, voilà. Et ils vont voir aussi donc un médecin homéopathe et un coupeur de douleur. Donc c'était pour vous illustrer la difficulté de prise en charge de ces enfants. Si je me suis amusée à calculer, parce que du coup on le fait pas du tout en pratique quotidienne, les scores de douleur et les scores de sévérité des symptômes, elles rentrent pas dans les critères, alors que moi je l'ai étiqueté. Polyarthralgie ou syndrome douloureux chronique, tout ce que vous voulez, pas fibromyalgique, mais elle rentre de ce contexte. Autre enfant, 14 ans, qui est adressé aussi pour douleur articulaire. La maman a à peu près les mêmes symptômes, mais ce n'est pas étiqueté sans être étiqueté. Tout commence, elle, par des entorses à répétition. Comme signe somatique, elle a donc des précordialgies, des dyspnées, des épisodes de diarrhée. La maman me parle d'une colite inflammatoire, mais finalement, toutes les échos, les IRM, le bilan biologique, toujours, tout a été normal, mais ça avait nécessité une hospitalisation, mais sans traitement. Donc, j'ai pas de documents, hein, je ne sais pas. Elle a eu déjà beaucoup d'examens complémentaires au niveau biologique, parce qu'on recherche toujours des tas de choses, les anticorps, les ASCA, les ANCA, pas de syndrome inflammatoire biologique. Elle a des troubles du sommeil, des troubles de la concentration, une tristesse de l'humeur, et du coup, elle correspond, quand j'ai fait mon petit score, à une fibromyalgie. Je n'avais pas attendu le score pour dire que pour moi, c'était des douleurs d'allure fonctionnelle. Et la dernière, qui correspond aussi, quand j'ai fait mon petit calcul, à une fibromyalgie, des douleurs qui sont lombaires, mains, cuisses, mollets, associées à un terrain avec de l'obésité et une énurésie secondaire. Je la vois, elle a 13-14 ans. Donc, depuis l'âge de 12 ans, elle reprend une énurésie. Douleurs des doigts qui conduisent à l'arrêt de la guitare, troubles de l'endormissement. Et donc là aussi, avis de 3 médecins avant de venir me voir, en plus de son médecin traitant, qui ont tous dit « c'est dans la tête ». Et alors là, c'est la catastrophe parce qu'ils arrivent, ils n'ont plus confiance. Et ceux-là, on a du mal à les récupérer. Mais une fois, la maman me dit en sortant « enfin, on est écouté, c'est pas dans la tête ». Alors que je leur dis quand même que c'est pas une maladie inflammatoire. Hein. Donc je leur dis que je suis rhumatologue et que je m'occupe des maladies inflammatoires et que pour moi, je vais pas mettre de traitement spécifique de ces maladies parce qu'ils arrivent... Ah oui, parce que la grand-mère a une PR quand même. Donc ils s'attendaient à ce que je mette l'enfant sous biothérapie. Voilà. Donc pour conclure, les patients sont là. Les conséquences de la douleur sont réelles. Je pense qu'il faut être complètement humble face à ces difficultés, puisque c'est des patients qui nous posent problème quand même. Pas les mêmes problèmes que nos malades organiques, mais ils nous posent problème parce qu'ils nous prennent beaucoup de temps, et pour moi, on s'en occupe pas comme il faut. Je redis que pour moi, la fibromyalgie, il ne faut pas employer ce terme. Alors après, qu'est-ce qu'il faut employer? Je pense qu'on fait un peu notre petite cuisine, mais on s'entend quand même, hein, parce qu'avec les médecins de la douleur, si on met pas le même terme, on sait de quoi on parle quand même. La prise en charge en ambulatoire, je pense, devrait être améliorée parce que est-ce que c'est de la médecine hospitalière? Je ne sais pas, enfin, c'est des questions ouvertes. En revanche, les médecins ambulatoires sont très démunis aussi. Donc il faut, je pense, pouvoir répondre à quelque chose de ce point de vue-là. Et du coup, après, quand j'ai repris les initiales de cette première journée, je trouvais que effectivement, ça rentrait pile poil dans ces initiales du réseau d'Orémi, ou Rédomi, pardon. Voilà. Merci de votre attention.